Seigneur notre Dieu et notre Roi, nous te sommes infiniment reconnaissants pour cette occasion que tu nous donnes de nous ressourcer dans ta présence. Ta parole, Seigneur, est la vie. Ta parole, Seigneur, nous transforme. Ta parole, Seigneur, donne d'expérimenter, Seigneur, ta puissance. Que nos cœurs maintenant soient disposés à recevoir cette parole qui vivifie, cette parole qui fortifie. Parle, Seigneur, à nos cœurs. Et que tout esprit qui pourrait perturber, Seigneur, ce moment, soit frappé d'impuissance au nom de Jésus. Merci, Seigneur, de te glorifier. Par Jésus, nous t'avons prié. Amen. Luc chapitre 9, versets 28 à 36. Dans la version Louis II, nous lisons ceci. Environ 8 jours après qu'ils eurent dit ces paroles, Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques, et il monta sur la montagne pour prier. Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage changea, et son vêtement devint d'une éclatante blancheur. Et voici, deux hommes s'entretenaient avec lui. C'étaient Moïse et Élie, qui, apparaissant dans la gloire, parlaient de son départ qu'il allait accomplir à Jérusalem. Pierre et ses compagnons étaient appesantis par le sommeil. Mais, s'étant tenus éveillés, ils virent la gloire de Jésus et des deux hommes qui étaient avec lui. Au moment où ces hommes se séparaient de Jésus, Pierre lui dit, « Maître, il est bon que nous soyons ici. Dressons 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Il ne savait ce qu'il disait. Comme il parlait ainsi, une nuée vint les couvrir, et les disciples furent saisis d'effrayeur en les voyant entrer dans la nuée. Et de la nuée sortit une voix qui dit, « Celui-ci est mon fils élu, écoutez-le. » Quand la voix se fit entendre, Jésus se trouva seul. Les disciples gardèrent le silence et ils ne racontaient à personne en ce temps-là rien de ce qu'ils avaient vu. Amen.
Yeah. ce matin. Nous sommes le deuxième dimanche du temps qui nous prépare à la passion de Christ, ou plus simplement dit, du carême. Nous nous acheminons peu à peu vers un événement qui va marquer la vie du monde, et plus particulièrement la chrétienté. L'histoire que nous venons de lire nous parle d'un événement extraordinaire de la vie de Jésus qui vient confirmer sa filiation avec le Père et le préparer à affronter sa destinée, celle de mourir et ressusciter pour le salut de l'humanité. Le texte commence par « environ 8 jours », une expression qui est courante dans les Saintes Écritures et qui veut simplement dire « environ 1 semaine ». Après qu'il eut dit ces paroles, cette expression relie la promesse de voir le royaume faite au verset 27, aux événements qui suivent. Et dans le verset 27, nous pouvons lire ceci. « Je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point qu'ils n'aient vu le royaume de Dieu. » Environ 1 semaine après, parmi les disciples qui étaient présents, il y en a quelques-uns, principalement 3, à savoir Pierre, Jean et Jacques, qui vont voir cette gloire, vont voir ce royaume de Dieu se manifester. Ces 3 disciples furent admis à assister Jésus à la résurrection de la fille de Jaïrus, à la transfiguration et plus tard à l'agonie du Christ dans le jardin. C'est un privilège d'être aussi proche du Seigneur et de vivre ces différents événements avec lui. Jésus les retire dans notre texte du milieu des autres et les conduit sur une haute montagne, probablement le mont Horeb. Cela n'est pas au hasard. Il indique tout simplement qu'il faut s'élever dans les hauteurs pour entrer en communion avec Dieu. Si cela est vrai sur le plan physique, il est encore plus sur le plan spirituel. Et régulièrement, nous allons lire dans les Saintes Écritures que Jésus prenait ce temps pour aller à la montagne, à la rencontre de Dieu, pour communier avec le Seigneur, pour recevoir les instructions de son Père. Mais cette fois-ci, il est allé avec ses disciples pour dire, venez vous-même voir ce qui se passe dans l'intimité avec le Seigneur, dans la communion avec le Seigneur. Nous sommes, pendant cette période de carême, dans un moment d'élévation de notre âme, dans la prière et dans le jeûne. Cela n'a rien de magique ni de sorcier pour ceux qui font cette expérience avec le Seigneur. Ils découvrent beaucoup de choses qui viennent de l'Éternel parce que notre Dieu est un Dieu de la révélation. D'ailleurs, le texte nous dit un certain nombre de choses qui se sont passées pendant que Jésus et les 3 étaient dans cette contemplation, dans cette élévation à la recherche de la face de Dieu. La première des choses, c'est qu'il y a eu une transfiguration de Jésus, c'est-à-dire le changement d'un visage en un autre. Le texte dit que l'aspect de son visage changea. Mais cela ne s'est pas limité au visage, mais aussi à ses vêtements qui sont devenus éclatants, littéralement produisant de la lumière. Il suggère donc l'émission d'une lumière intense, semblable à un éclair, comme pour dire que la prière attire dans notre vie les manifestations de la gloire céleste. Ceux qui n'aiment pas la prière ne feront jamais cette expérience glorieuse avec le Seigneur. cependant que tu seras dans une prière sincère, que le ciel va s'ouvrir sur ta vie et tu pourras alors contempler la gloire de Dieu. Plusieurs personnes qui avaient soif dans l'histoire de l'Église et de la chrétienté ont fait cette expérience de Jésus. Pendant des moments d'intimité avec le Seigneur et de prière, ils ont vu le ciel comme ouvert. Et de la terre, ils pouvaient contempler les merveilles du royaume de Dieu. Nous avons besoin de cette expérience. Notre nation aussi a besoin de cette transfiguration. Et j'ai envie de dire que ce ne sont pas les arrestations arbitraires et d'intimidation qui vont résoudre les problèmes des Camerounais. C'est pourquoi nous devons rentrer dans la présence de Dieu, dans la prière, pour que le cœur des Camerounais et de ceux qui dirigent ce pays soit transformé, éclairé par la lumière céleste. Ainsi nous aurons une nation plus juste, qui vit en paix. Le nuage obscur qui s'épaissit sur le pays certainement va se dissiper. Oui, bien-aimés, une autre chose qui s'est passée sur cette montagne, c'est que deux hommes apparaissent et le texte nomme ces personnes, Moïse et Élie. Ils représentent, comme vous le savez, la loi et les prophètes. Et tous deux avaient quitté ce monde dans des circonstances exceptionnelles. Nous savons qu'Élie n'a pas connu la mort. Il est monté au ciel, emporté par une nuée. Moïse, pour ce qui le concerne, la Bible nous dit qu'il est monté sur la montagne et c'est là-bas qu'il a été enterré par les anges. N'est-ce pas? Personne ne sait, aucun homme n'a été témoin de sa mort ni de son enterrement. Et ces deux personnes apparaissent à Jésus à ses côtés. Nous savons que Moïse avait donné la loi de Dieu après avoir conduit le peuple hors d'Égypte. Élie avait cherché à ramener le peuple de l'idolâtrie à Dieu. Mais la loi ne change pas l'état du cœur. Ce que ni Moïse ni Élie n'avaient pu faire, Christ allait l'accomplir. Délivrer du péché, de sa condamnation, de la condamnation. Nous comprenons en lisant le texte qu'ils s'entretiennent sur le départ de Jésus. Littéralement une exode que Jésus allait accomplir à Jérusalem. Et nous savons que c'est le lieu où Jésus va être condamné, jugé et cloué à Golgotha. Remarquons que la mort du Seigneur est envisagé ici comme un accomplissement et qu'elle est décrite comme un exode, c'est-à-dire le déplacement d'un endroit à un autre et non la cessation de l'existence. C'est pourquoi Jésus peut affirmer qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Désormais, nous avons la vie par Christ au travers de sa mort et de sa résurrection. Désormais, nous avons accès au royaume de Dieu en passant par Jésus-Christ. Nous pouvons migrer de cette terre pour le royaume de Dieu passant par Jésus-Christ. Pendant que la scène se déroule, les trois disciples qui étaient supposés être en prière avec Jésus sont dans l'assoupissement. Ils sont en train de ronfler tout à côté. Ils ont failli rater la manifestation de la gloire de Dieu. Ce pourquoi est-ce que Jésus les avait amenés. J'imagine que c'était la splendeur de l'éclat des vêtements de Jésus qui a dû les sursauter, les faire sursauter. Ils se sont dit peut-être que c'est le jour qui s'est levé, n'est-ce pas? À cause de l'éclat des vêtements de Jésus. Il faut remarquer que même les disciples qui étaient appesantis par le sommeil lors de la manifestation de la gloire de Jésus était endormi encore pendant son agonie dans le jardin de Gethsémané. Jésus a dû supporter ces incapacités de ses disciples comme il le fait encore pour nous aujourd'hui. Mais jusqu'à quand? Satan va utiliser le sommeil, la fatigue physique pour empêcher les uns et les autres de vivre des choses extraordinaires venant de lui. Et certainement quelqu'un ici comprend ce que je suis en train de dire. Parce qu'il n'arrive pas à se lever pour prier, n'est-ce pas? À cause du sommeil. Parce qu'il n'arrive pas à se lever quand le Seigneur l'interpelle à la prière. Tant que le sommeil prend le dessus sur ta vie, il y a des choses que tu ne vas pas expérimenter. Et Satan va s'arranger à ce que tu sois toujours accablé, fatigué physiquement pour ne pas avoir des moments d'intimité avec lui. Et chose surprenante, lorsque ses disciples sursautent du sommeil, il y a une personne qui aimait toujours parler et qui parlait même parfois sans bien réfléchir, n'est-ce pas? Il s'agit de Pierre. Il sursaute du sommeil et voyant les trois hommes, à savoir Moïse, Élie et Jésus, il propose de dresser trois tentes. Une pour Jésus, une pour Moïse et une pour Élie. Mais cette idée s'inspirait d'un zèle sans intelligence. Le texte dit, il ne savait ce qu'il disait. Imaginez-vous-même un peu. Les deux hommes, Moïse et Élie, ont fini leur ministère terrestre. Et j'imagine qu'avec tous les maux de tête que le peuple d'Israël a donné à Moïse, le retour auprès du Seigneur, c'était comme un moment de soulagement, n'est-ce pas? Nous nous souvenons aussi qu'Élie, à cause de la difficulté qu'il avait à ramener le peuple sur le droit chemin, à un moment demandé à Dieu, Seigneur, je veux que tu prennes mon âme. Et un bon monsieur vient leur dire qu'on va construire trois tentes pour qu'ils restent encore sur la terre. Qu'ils quittent leur gloire céleste, qu'ils quittent les palais dans lesquels est-ce qu'ils sont dans les cieux pour venir s'installer sur la terre. Moi-même à la place, je n'aurais pas accepté, n'est-ce pas? Parce que là-bas en haut, c'est plus bon qu'ici sur la terre. Oui, bien-aimé, nous comprenons vraiment qu'il ne savait pas ce qu'il disait. Par la suite, c'est la nuée qui les environne. Nous savons que dans l'histoire de la relation entre Dieu et le peuple d'Israël, la nuée symbolise la présence de Dieu. Comme si la présence des deux hommes, la clarté du visage et des vêtements de Jésus ne suffisait pas, Dieu lui-même descend. Il fait entendre sa voix, répétant ce qu'il avait annoncé lors du baptême de Jésus. Mais cette fois, elle s'adresse aux disciples, aux trois qui sont entrés dans l'intimité avec le Seigneur. Celui-ci est mon fils élu. Écoutez-le. Écoutez Jésus. Écoutez les instructions qu'il vous donne. Écoutez la parole qu'il vous communique. Écoutez la vie qu'il vous transmet dans sa manière d'être et dans ses propos de chaque jour. En disant ces paroles, Dieu attestait que Jésus n'était pas venu de lui-même. Il n'était pas quelqu'un qui était venu usurper le titre de fils de Dieu. Mais il avait là l'approbation de son Père céleste, témoignant que, contrairement à ce que d'autres religions peuvent penser, effectivement, Jésus est le Fils de Dieu. Ne me demandez pas si Dieu peut engendrer, mais ce que la Bible me dit, c'est que Jésus est le Fils de Dieu. En lisant ce passage, certainement, certains ont eu envie d'être avec les trois disciples comme moi. La bonne nouvelle, c'est que Dieu veut se révéler à toi et à moi, encore aujourd'hui. Soupire après cette manifestation et recherche la face de Dieu en toute sincérité. Même si les manifestations ne sont pas exactement identiques, il te fera voir sa gloire et te fera entendre sa voix quand tu seras sincère en t'approchant de lui d'une manière sérieuse et avec la soif de le laisser parler à ton cœur. Que cette période de carême soit pour chacun d'entre nous la montagne où nous allons rencontrer Dieu dans toute sa gloire. Que nos cœurs soient réellement disposés à l'écouter et à nous laisser transformer par sa parole, avec une foi ferme en la personne de Jésus-Christ, le modèle par excellence. Qu'il nous contamine de sa splendeur jour après jour, afin que nous le ressemblions. Que l'Éternel bénisse dans nos cœurs cette parole. Amen. Je nous invite un instant à prier.
Notre Dieu est un Dieu qui prend plaisir à se faire connaître, à se révéler aux hommes. Dieu lui merci parce qu'il veut se faire connaître à tous ses enfants, y compris toi. Dieu lui merci parce que de la terre tu peux contempler sa gloire, comme les trois disciples en compagnie de Jésus. Demande la force au Seigneur pour surmonter le sommeil, l'assoupissement, la fatigue physique et toute autre forme de lourdeur que Satan peut utiliser pour t'empêcher d'entrer dans l'intimité avec lui. Pour entrer dans l'intimité avec Dieu, j'allais dire. Dis merci au Seigneur parce qu'il va se révéler à toi. Demande au Seigneur de transformer ton cœur, de t'illuminer de sa lumière céleste, afin que toi aussi tu deviennes rayonnant et éclatant de splendeur, comme le fut Jésus sur cette montagne en présence de ses disciples. Que ceux qui sont autour de toi en te regardant voient la gloire de Dieu qui se manifeste. Merci Père, parce que tu es un Dieu glorieux. Merci Père, parce que tu veux nous faire voir ta gloire. Crée dans nos cœurs la soif de voir cette gloire et la force, Père éternel, de résister à toutes les forces contraires qui nous empêchent d'être véritablement tes intimes. Merci Seigneur notre Dieu, notre Roi, de te révéler à chacun d'entre nous pendant que nous te cherchons. Merci Seigneur pour l'assurance que tu nous donnes de suivre Jésus, de nous mettre à sa suite et de l'écouter, de laisser que sa parole et sa vie tout entière nous transforment. Merci Seigneur d'agir au nom de Jésus.